Bien, ben bonsoir et merci d'être venu jusqu'ici, d'avoir changé de lieu pour cette séance. Donc c'est la troisième séance du séminaire et c'est encore consacré, donc comme la séance précédente, on l'a intitulé « L'édition électronique, l'open access et ses conséquences pour l'édition et la traduction hein. ». Donc après les revues, leur internationalisation, aujourd'hui on va se pencher sur les problématiques du numérique, mais pour les ouvrages, en quoi le numérique transforme les pratiques, les processus et les équilibres économiques, et quelles sont les conséquences pour la traduction, un petit peu dans les deux sens, en fonction des expériences particulières de nos deux invités de ce soir. Donc avec Jean-Baptiste Boyer, à qui on va donner la parole en premier, qui est donc responsable du service des publications aux éditions de l'HESS, et qui est aux éditions donc, depuis 2007. Donc, il y a une vision dans le temps qui pourra donc, nous montrer cette évolution, hein, puisque depuis 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Auparavant, Jean-Baptiste Boyer était directeur commercial et de la gestion donc, aux presses de Sciences Po. La semaine dernière, on avait eu Sandrine Boisard, vous vous souvenez, qui nous avait parlé des revues des presses de Sciences Po. Donc un éditeur qui a un fonctionnement différent des éditions de l'HESS, tout en étant sur un domaine qu'on peut dire un peu comparable. Donc, c'est une SARL, les éditions de l'HESS font partie d'un établissement public, c'est un fonctionnement différent. Et puis auparavant, donc, Jean-Baptiste était aussi éditeur chez L'Arche, donc un éditeur de théâtre. Voilà, donc une expérience de l'édition privée, de l'édition publique, ce qui peut être un point de comparaison aujourd'hui, où on assiste à des transformations structurelles qui ont tendance à séparer deux domaines. Hein. La deuxième intervenante, c'est Maria Vlachou, merci beaucoup d'être là, qui est directrice des droits des presses de Sciences Po, donc Francisca, peut-être des presses universitaires de France. Francisca, tu peux peut-être présenter Maria un peu plus... disons, de façon plus développée.
Oui, la Maria est directrice du service des droits étrangers et dérivés des PUF. Mais surtout, tu as un parcours très polyvalent, c'est-à-dire tu unis les trois instances qui nous intéressent ici, la recherche, la traduction et l'édition, parce qu'en même temps, tu as toujours travaillé dans l'édition, dans des différentes fonctions. Et tu as développé ta recherche, ton parcours de chercheuse en archéologie, aussi bien en Grèce qu'en France. Tu as de multiples études, c'est-à-dire à la fois l'histoire, l'archéologie et aussi les études littéraires. Tu es aussi traductrice littéraire et technique du français vers le grec, j'imagine. Oui. Oui, et donc actuellement tu es en poste au PUF, avant tu étais à l'EHESS, une édition de l'EHESS pour développer l'international, l'édition de l'EHESS. Donc nous avons vraiment deux intervenants très à la fois dans la même, dans une bonne cohésion de travail déjà, et avec des profils très, très différents et très polyvalents.
Alors on va juste faire quelques remarques préliminaires avant de laisser la parole à Jean-Baptiste et Maria. Moi, je voudrais faire trois remarques. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de soufflerie? Ça n'a pas toujours l'impression d'être très audible. Bonjour. Donc, la première remarque, c'est que notre séminaire se veut un lieu de réflexion entre, comme on l'avait dit, hein, des débuts, des points de vue et des positions différentes, des perspectives aussi, et qui allie donc position de chercheurs qui sont d'abord des auteurs de textes, parfois et souvent des coordinateurs de projets éditoriaux, mais aussi quelquefois des éditeurs et aussi des observateurs des processus. Hein. Donc des chercheurs, des traducteurs, parmi vous un certain nombre sont à la fois les deux, chercheurs et traducteurs. Le traducteur, bien sûr, aujourd'hui, il est l'auteur d'un texte, mais il est aussi souvent entrepreneur, promoteur d'un texte auprès d'éditeurs, donc aussi de multiples casquettes. On a aussi invité pour d'autres séances des professionnels de l'édition qui sont plutôt du côté de la documentation, hein, archiviste, bibliothécaire, et puis responsable de droit, secrétaire d'édition de revues. Voilà, donc l'idée c'est que sur des questions qui sont à la fois des questions de recherche mais aussi des questions de, qui interrogent nos pratiques, ce dialogue nous semble important, ce qui n'est pas toujours très facile à mener, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un point de vue surplombant de la recherche autour d'objets extérieurs puisqu'on parle aussi de nos pratiques, hein. Donc il peut y avoir des domaines où il est plus difficile d'aller pour des multiples raisons. Et puis c'est aussi quand on est dans l'action, des questions sur lesquelles on peut avoir un manque de recul. Hein. Voilà, mais ça nous semble important de garder cette parole-là, hein, et cette interaction-là. Je voulais vous signaler qu'on a mis en ligne le programme un peu plus détaillé pour les séances suivantes, notamment en indiquant le nom des intervenants. Il y a encore deux séances où nous avons indiqué un intervenant, mais il y en aura sûrement un deuxième. On vous renverra de toute façon le programme pour la prochaine séance. Donc, ce que je veux juste rappeler, c'est qu'il y aura deux études de cas. Autour de circulation avec des aires culturelles particulières, donc avec la langue turque et aussi avec l'Europe centrale, et puis deux séances autour de l'articulation entre recherche et traduction, hein, les deux dernières séances. En plus de séances du séminaire, donc il y a deux séances qu'on a appelées plutôt débat, qui auront lieu dans l'amphithéâtre au 105 boulevard Raspail, qui sont un petit peu plus longues. La première, c'est le 26 janvier. Je pense que je vous ai envoyé l'annonce. Enfin, j'ai envoyé à une partie des correspondants, mais pas à tout le monde. Je le ferai dès demain. 26 janvier, donc politique et savoir de la traduction, avec une première partie sur les politiques, interroger l'Europe et les politiques de traduction. Et une deuxième partie autour de deux ouvrages et de deux auteurs qui ont été traduits récemment, donc Ernesto De Martino, traduit de l'italien, un anthropologue très important pour l'anthropologie du religieux, et puis Max Weber. Ça, ce sera le 26 janvier. Et en mars, juste avant le salon du livre, le 21 mars, une séance autour des revues internationalisation, et un débat autour de la langue arabe, les échanges avec la langue arabe. Voilà, mais on va vous envoyer les informations de façon plus précise. La deuxième remarque, c'est la question de, juste pour faire le lien avec la séance précédente, je voulais relever une des conclusions de la dernière séance, qui était celle que nous étions dans une phase d'expérimentation. C'est-à-dire que tous les observateurs, hein, de l'évolution de l'édition numérique, de l'édition électronique, pardon, indiquent qu'il n'y a pas de modèle économique qui se dégage, hein, de modèle unique, et que les expériences, que ce soit... C'est un peu la même chose pour la presse, hein, même s'il y a peut-être un laps de temps plus long, mais pour l'édition, tout est encore à expérimenter. Donc on va le revoir peut-être encore ce soir pour les ouvrages. Pour l'édition de sciences humaines, c'est peut-être encore plus fort cette absence de modèle. Hein. Il y a une autre chose qu'il faut rappeler, c'est les coûts de la recherche concernant l'édition électronique, hein, qui sont souvent sous-estimés. Encore aujourd'hui, la vente de e-book, notamment pour les ouvrages, ne rapporte peu d'argent aux éditeurs, mais les investissements sont toujours importants. Hein. Donc l'investissement est très, très lourd. Le travail éditorial est aussi de plus en plus spécialisé. Il faut être toujours plus informaticien quand on veut être éditeur. Ça aussi, c'est un bouleversement des métiers. On l'a vu, on en a parlé un petit peu pour les revues déjà. Par ailleurs, l'édition numérique, et ça c'est évidemment une grande interrogation pour l'avenir, offre des possibilités très novatrices au niveau des formats. Hein. Et pourtant, concernant les e-books, notamment en sciences humaines, on a encore beaucoup de formats homothétiques donc, qui proposent des e-books tout à fait semblables au format papier. Donc, ça c'est aussi une question pour ce soir. Est-ce que c'est la voie de l'avenir? Est-ce que la question des enrichissements, de faire un texte différent, pose trop de problèmes? Les auteurs souvent veulent faire autre chose, donc il s'agit de faire un complément numérique. Quelles sont éventuellement les questions de droit d'auteur qui peuvent se poser avec ces formats différents entre le numérique et le papier? Donc ça c'est tout un chantier. Voilà, c'était juste quelques remarques concernant l'évolution numérique qu'on a déjà évoquée la semaine dernière. Enfin, troisième remarque, qui concerne plus la question de la traduction. C'est plutôt une question. Quels sont les choix de langue hein, qui sont peut-être nouveaux quand on parle d'édition électronique par rapport au papier? Est-ce que l'édition électronique ouvre des possibilités beaucoup plus grandes, en particulier avec l'idée qu'on peut diffuser le livre dans d'autres pays? On a vu que pour les revues, cette question finalement est assez importante. On a des revues scientifiques qui se sont ouvertes au multilinguisme d'une façon beaucoup plus importante qu'auparavant, avec leur version en ligne. Est-ce que c'est le cas des livres? Est-ce qu'on peut être un éditeur en France et éditer d'autres langues? Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que les auteurs sont demandeurs? Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser avec un autre type de format. Voilà pour moi. Si tu veux ajouter quelque chose.
Oui, non, mais vu l'heure, et en plus, je crois que c'était tellement une bonne ouverture que je me limite à une seule remarque, peut-être par rapport à la semaine dernière, parce que ce qui était étonnant, c'était le grand consensus, quand même, qui s'était instauré, c'est-à-dire que je trouvais très bénéfique en même temps, parce qu'il était très encourageant de créer des choses, c'était une ambiance de nouveau départ, d'un monde de possibilités infinies, ce qui est sans doute. Juste, justifié, mais je pense quand même qu'il y a d'autres regards, ou peut-être pas forcément d'autres, mais qui s'ajoutent quand même sur cette perspective. Et un élément qui a été dit très brièvement, mais pas tout le monde était là à ce moment-là, par Sandrine, par exemple, qui évoquait d'un mot, par exemple, la nécessité éventuelle de questionner l'idéologie de la visibilité totale, qui est quand même sous-jacente à cette entreprise de la République numérique, mais comme question, hein, c'était pas pour polariser, mais quelque chose qui n'a pas été repris en tout cas dans la suite. Nous sommes restés dans ce mouvement bénéfique, je vais dire. En tout cas, ça nous fait du bien aussi de juste pouvoir créer. Mais il est vrai quand même que tout cela se passe dans un environnement idéologique, notamment que peut-être on aura le temps aujourd'hui ou à un autre moment, à un moment donné, de développer plus aussi dans les journées d'études. Qui auront lieu et où il y aura encore d'autres stratégies à présenter, et en tout cas qui m'intéresseront beaucoup aussi parce qu'il faut toujours se dire que la France, quand même, est un cas particulier avec une politique particulière nationale de développement national du numérique qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire en Allemagne où il y a un grand mouvement numérique, tout ça sont des initiatives bien sûr subventionnées par des différents organismes, mais qui se font quand même en particulier avec des entreprises ou autrement, mais qu'il y a comme ça un grand projet qui se autofinance quelque part, ça c'est quelque chose de très particulier qui crée, je pense, aussi sa propre problématique et ses propres défis économiques. Voilà, mais ça sont juste des ajouts qu'on voulait quand même apporter cette petite remarque pour voilà, mettre les choses un peu en place. Mais voilà, parole à nos invités.
Voilà, si j'ai bien compris, j'ai le privilège de commencer. Anne me rappelait à l'instant J'ai la chance depuis 10 ans maintenant de travailler aux éditions de l'HESS comme responsable du service, avec 2 directeurs scientifiques successifs, Christophe Franchasson, puis depuis 2013, Emmanuel Desvaux. Mon propos ne sera pas ici ce soir de risquer de grandes théories sur le numérique, l'open access, les changements de paradigme, mais ce sera plutôt d'évoquer de façon très concrète comment, pendant ces 10 années, durant cette période de transformation, les éditions ont pu observer, accompagner, expérimenter, décider face à ces mutations, sans idées préconçues et avec un grand souci de pragmatisme. Alors, quelques mots rapides sur les éditions. Les éditions diffusent 8 revues, ce n'est pas l'objet de la séance de ce soir, chacune des revues ayant son autonomie rédactionnelle et l'éditeur recherchant des synergies à la fois en termes de fabrication, de diffusion et de financement. Et chaque année, les éditions publient entre 20 et 25 nouveaux ouvrages par an, chaque année, effectivement. Parfois avec des coéditeurs, c'est le cas de la collection Hautes Études, une collection prestigieuse, et parfois seule, le plus souvent. Les éditions sont les héritières d'une longue histoire, puisque elles étaient d'abord un service des publications de la 6e section d'École pratique des études. Elles sont devenues service des publications de l'EHESS, et pendant longtemps, elles avaient un rapport privilégié avec les éditions Mouton, qui ont été rachetés par Walter de Gruyter, et vis-à-vis desquels ce partenaire privilégié, elles étaient plutôt directrices de collection, si on veut, Mouton étant l'éditeur, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, on y viendra tout à l'heure quand on parlera du fond. Bon, un souci de maintenir, et la faculté de pouvoir maintenir les ouvrages disponibles, quand bien même les taux de rotation ne sont pas absolument extraordinaires, les taux de vente par rapport au stockage, etc. Et une double mission, une mission scientifique, qui est apporter à un public académique les résultats de la recherche, en faciliter l'accès par des prix raisonnables, y compris en dehors de l'Hexagone, publier des collectifs, des ouvrages exigeants que l'édition privée ne pourrait peut-être pas se permettre de publier. Et au-delà de cette mission, une mission citoyenne qui est d'apporter à un public plus vaste les résultats de la recherche à travers, ce qu'on peut considérer comme étant de vrais ouvrages, bien retravaillés, plus concis, toucher le grand public éclairé et participer ainsi à l'utilité sociale des sciences sociales. Voilà. Donc en déployant des collections, il y a des collections qui s'adressent plus spécifiquement à l'universitaire, je citerai en temps et lieu, raison pratique, enquête, et puis d'autres collections, je ne citerai que 4 figures, une collection d'intervention ou audiographie, petite collection qui reprend des textes qui ont été d'abord prononcés, des textes brefs, ces 2 dernières ayant plutôt vocation d'intéresser un public plus vaste. Voilà. Donc ce souci d'aller au-delà de la communauté académique, sans pour autant la négliger, nous a conduit à nous entendre pour le papier avec un diffuseur privé, le CDE, qui appartient au groupe Gallimard, même s'il diffuse de nombreux éditeurs qui n'ont rien à voir avec Gallimard. Et c'est l'équipe Gallimard Export qui s'occupe de diffuser nos ouvrages en dehors de l'Hexagone. Voilà, l'idée, c'est de ne pas rester cantonné dans le public et le cénacle universitaire, mais souci d'établir une barrière entre privé et public, de toucher la librairie de l'honnête homme et par là l'honnête homme. Alors, voilà nos missions. Quelles sont les conditions économiques dans lesquelles elles doivent se dérouler? Alors, comme toute structure privée, publique, les éditions de l'HESS ont à la fois des recettes et des dépenses. Les recettes, c'est le chiffre d'affaires. Les revues, qui représentent près de 60% du chiffre d'affaires. Les ouvrages, les ventes en librairie ou les ventes directes, les recettes qui viennent des droits de photocopie, qui ne sont pas négligeables, et puis toutes celles qui proviennent de la vente de nos ouvrages auprès des confrères étrangers, qui, grâce à Anne et à son travail, se développent et prennent une importance certaine. En face, ce sont les dépenses. Je simplifie, évidemment, il y a les salaires, les loyers, et après, tout ce qui est lié, les frais de collaboration extérieure et des traductions, puis tout ce qui est lié à la fabrication proprement dite des ouvrages, l'établissement des fichiers, l'impression, et évidemment, les frais de diffusion, de publication. Notre privilège, peut-être par rapport à un éditeur privé, pour accomplir cette mission, c'est de n'avoir à atteindre que ce qu'on appelle le petit équilibre. C'est quoi le petit équilibre ? Ben, c'est équilibrer les dépenses et les recettes, mais sans tenir compte des salaires et des loyers, ce qui est déjà assez considérable. Donc c'est un privilège, mais ça n'est pas non plus une baguette magique ou un sésame, c'est-à-dire qu'il faut tout de même atteindre ce petit équilibre. Voilà. Alors, une fois ceci posé, comment les éditions ont-elles observé, vécu les mutations pendant ces 10 années, les mutations en cours liées à l'essor du numérique? Bon, d'abord, il faut le dire, la cadence, le rythme, la pression, l'environnement, les réalisations, les décisions ont été très différentes selon qu'on parle des ouvrages ou des revues. Bon, la revue, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre dessus. En 2007, lorsque je suis arrivé avec Christophe Prochasson, déjà Percé avait numérisé les collections patrimoniales des Annales, de l'Homme, et il nous a fallu très vite trouver une solution pour la diffusion du courant. C'est à ce moment-là que nous avons à la fois passé un contrat avec Cairn et avec Revue.org et le Cléo, en fonction de l'histoire de chacune des revues, dans un souci de tenir compte des particularités de chacune des revues, de leur équipe, de leur histoire. Donc, selon des traitements différenciés, des barrières mobiles différenciées, et toujours avec le souci de pragmatisme, ce qui nous entraîne d'ailleurs aujourd'hui à rapprocher un petit peu les points de vue et à essayer plutôt de concevoir des contrats tripartites. Voilà. Bon, je passe, mais je le rappelais tout à l'heure, les revues contribuent à ce petit équilibre d'une façon très importante. Je parlais de 60% du chiffre d'affaires réalisé par les revues. C'est évident que c'est aussi grâce aux revues qu'on peut financer les ouvrages difficiles. Et quand une loi, comme la loi Lemaire, bouleverse l'économie des revues, ça peut aussi avoir des conséquences sur celle des ouvrages. Pour ce qui est des ouvrages, c'est vrai, le rythme a été plus lent, les décisions, les pressions, d'une manière générale. En 2007, l'édition française était sur ce point, disons, sur ce plan balbutiant. On discutait, on observait le marché anglo-saxon. Les réalisations étaient très, très peu nombreuses et les résultats financiers dérisoires. Aujourd'hui, en 2015, le marché de l'édition représente, l'édition numérique représente 6,5% du chiffre d'affaires de vente de livres. 6,5% en France, comparé aux quelques 24% du marché américain ou 16% du marché anglo-saxon, mais avec tout de même une augmentation qui n'est pas exponentielle, mais qui est réelle. Dans ces 6,5%, 20% sont détenus par la littérature. Les sciences humaines mélangées dans lesquelles on comprendrait le juridique représente presque 55%, 56%, mais le juridique représente 90% de cette part-là. Donc ça donne plutôt un alentour de 6-7% pour les sciences humaines et sociales. Voilà. Donc face à cette évolution, la démarche des éditions de l'HESS a d'abord été d'observer, d'organiser une veille, de veiller à l'échange avec des partenaires, des confrères qui pouvaient avoir des opinions, des approches, des idéologies, on en parlait ce mot tout à l'heure, différentes. Et c'est ainsi que les éditions sont adhérentes de la EDRES, où on retrouve les éditeurs universitaires, qui en particulier des SHS, surtout le SHS, qui a été aussi un lieu d'information, d'échange. Elles sont membres du syndicat national de l'édition, en particulier des groupes universitaires, du groupe numérique, du groupe des droits étrangers, qui a pour particularité de mêler éditeurs privés et éditeurs publics. Elles sont membres du BIEF, du Bureau international de l'édition française, qui est aussi un lieu d'échange très important. Et puis, elles discutent avec les différents partenaires, diffuseurs, de structures qui sont liées à l'UHESS, comme de structures qui en sont plus éloignées. Donc, grâce à cela, grâce à toutes ces discussions, nous avons pu nous tenir informés des évolutions, des pratiques, et aussi des changements introduit par le législateur. Le législateur, il y a deux décisions importantes que je rappelle dans les années passées, en 2011 je crois. D'abord la loi Langue, c'est-à-dire la loi sur le prix unique du livre, a été étendue au prix du livre numérique lorsqu'il est vendu séparément. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours les éditeurs qui fixent le prix, même s'il y a certains assouplissements qui sont liés à la particularité du numérique. Ce ne sont pas les diffuseurs, distributeurs, ni même les fabricants de matériel qui, comme ça a pu se passer ailleurs, fixent d'une manière impérative le prix des livres. Et d'autre part, le taux de TVA du livre numérique est passé à 5,5% lorsqu'on l'envisage aussi comme un fichier séparé. Voilà. La réforme du droit d'auteur, qui est plus récente et qui a été le fruit d'une longue concertation entre éditeurs, auteurs sous l'égide des pouvoirs publics, a aussi créé un mouvement à la fois pour les nouveautés et pour le fond. Alors, les nouveautés, je parle ici des nouveaux contrats d'auteur, je ne sais peut-être pas, mais en 2014, le législateur a imposé une nouvelle mouture pour les contrats d'édition qui remontaient aux années 50. Il y a maintenant un titre spécifique qui concerne les droits numériques, avec des contraintes en termes de réalisation, de délai, pas forcément de simultanéité de publication entre le papier numérique, mais au-delà d'un certain nombre de délais, d'un certain délai après quelques procédures, l'auteur peut reprendre ses droits. D'ailleurs, c'est plus le législateur que l'auteur qui fait la pression sur cette version numérique. Très souvent, contrairement aux revues, aux rédactions des revues, aux lecteurs, aux auteurs de contributions, la première action de l'auteur, c'est: est-ce que mon ouvrage sera bien sous forme papier? Combien est-ce que j'aurai d'exemplaires, etc. Donc c'est ça, c'est assez paradoxal. On a plutôt ce genre de réaction. L'incitation, elle vient du législateur, de l'impulsion des pouvoirs publics que vous soulignez tout à l'heure. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Pour le fond, eh bien, comme je disais tout à l'heure, les éditions du HESS ont pu maintenir un fonds important papier sans être obligés de pilonner tout ce qui se vendait à moins de 30 exemplaires par an. C'est un privilège effectivement qui se mesure et qui a un certain coût, le stockage important. Mais malgré tout, il y a à peu près 15% des publications qui sont aujourd'hui épuisées. Et le législateur a introduit une réforme de droit d'auteur qui permet à travers le chantier Relire, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à la fois chapeauté par la Bibliothèque nationale, la société de gestion collective SOFIA et une société exécutante qui s'appelle Phoenix, qui permet de numériser des ouvrages dont on n'a pas, qui sont indisponibles, alors même qu'ils ne sont pas dans le domaine public, et dont soit l'éditeur n'a pas souhaité maintenir une diffusion papier, une diffusion quelconque, soit dont il peine à retrouver les ayants droit. Je passe sur le détail technique, mais ça c'est aussi quelque chose qui est une forte incitation pour bouger sur le fond, parce que si on ne fait rien et que l'ouvrage est épuisé, même si l'éditeur est sollicité, il peut se voir privé finalement d'une partie de son fonds. Il n'est plus assis comme ça sur une rente qu'il est... Il choisit d'activer ou non, faire activer ou non. S'il ne bouge pas sur des titres épuisés, alors quelqu'un d'autre prend le relais. Voilà. Bon, donc, ça pose pour nous un autre problème que j'évoquais rapidement, c'est que dans notre longue histoire, cette cohabitation avec Mouton, cette collaboration avec Mouton, ne rend pas forcément les choses très simples pour savoir à qui appartient les droits, à Walter de Ruyter ou à nous sur le fond, et ça, c'est certainement un frein. Le deuxième frein, c'est le coût de l'opération. Il ne faut pas l'oublier, numériser le fond, ça représente un investissement important. Pour un éditeur public, l'aide du CNL, après avoir été écarté, c'est finalement ouvert, rendu possible, enfin c'est peut-être plus long. Il y a aussi des aides qui sont obtenues grâce à des accords avec des partenaires, diffuseurs, mais à ce moment-là qui orientent les choix commerciaux. Et c'est assez légitime si le partenaire participe au financement ou si grâce à son ses efforts en direction des pouvoirs publics, il a obtenu des financements, il a tendance à vouloir orienter le mode de commercialisation. Et puis, en ce qui nous concerne, il y a également les projets de PSL autour du patrimoine numérique qui demandent encore à être précisés. Donc, il ne faut pas négliger, comme Anne le disait tout à l'heure, le coût de cet investissement. Pour les nouveautés, la situation est un peu différente, puisqu'on peut réduire cet investissement initial, la conversion numérique, en travaillant le secrétariat d'édition des ouvrages en interne sur la chaîne Métop, qui a été mise au point par les presses universitaires de Caen, et qui permet, à partir de la même fichier source, très strictement balisé, structuré, de façon extrêmement rigoureuse, de pouvoir, sans frais de conversion, aller vers un fichier imprimeur, un fichier pour le web, un fichier EPUB, avec des efforts de conversion et surtout des frais de conversion minimaux. Voilà. L'investissement, il est humain, en termes de formation, c'est assez lourd, mais on espère bien ensuite avoir le fruit de ce travail. Alors, quelles sont nos expériences de diffusion dans cet univers mouvant? Les éditions de WHSS n'ont pas souhaité s'enfermer avec un diffuseur exclusif, même si certains étaient très proches de l'environnement WHSS, mais plutôt de faire des expériences en fonction des collections, en fonction de ce qu'elles estimaient être le public. Le premier partenaire, évidemment, le partenaire qui n'est pas exclusif, mais qui est naturel, qui fait partie de la famille UHESS, c'est le Cléo, avec en particulier le portail Open Edition Books. Il y a maintenant une trentaine de volumes de la collection Les Réimpressions, qui sont des ouvrages du fond, qui avaient déjà été remarqués comme étant dignes d'être réimprimés, et qui sont maintenant sur Open Edition Books, en freemium. La collection Métis, autour des noms grecs anciens, et une nouvelle salve d'ouvrages qui est en cours de préparation pour Open Edition Books. Et puis on a une deuxième expérience avec le Cléo qui est là plutôt sur une collection entre guillemets commerciale, la collection 4 figures que j'évoquais tout à l'heure, sous le régime de l'accès payant et non sous le régime du freemium. Donc voilà, avec un même diffuseur, deux procédés.
On va peut-être expliquer ce que c'est que le freemium.
Alors le accès payant, tout le monde comprend ce que c'est. Le freemium, c'est-à-dire, ça veut dire que l'internaute a accès à la version HTML, mais sans service supplémentaire. Les bibliothèques qui souhaitent faire bénéficier leurs lecteurs moteurs de recherche, système d'indexation, d'accès à la version mise en page, la version PDF ou les versions EPUB, à ce moment-là, doivent s'abonner. Il y a un certain nombre de services annexes, les fonctions d'alerte, etc. C'était à Paris, c'est-à-dire on offre gratuitement la version HTML et puisque le reste, mon Dieu, on le valorise, on le vend. Et finalement, les résultats ne sont pas du tout négligeables. Il y a des résultats intéressants qui, en tout cas, ça vaut le coup d'être tenté. Surtout pour des ouvrages comme ça de longue traîne, des ouvrages du fond. Voilà. La deuxième expérience que nous avons eue, c'est avec Eden Livre. Donc, c'est toujours dans le souci de ne pas distinguer, de ne pas trop rentrer dans un ghetto du public face au privé. Eden, c'est un portail qui a été mis au point à la fois par Flammarion, Gallimard et Le Seuil, qui valorise beaucoup l'intervention du libraire, qui vraiment tient à garder le libraire dans la boucle, à l'intéresser à cette diffusion. On a pour l'instant deux expériences. La première qui était un petit peu, toujours dans ce souci pragmatique et de pragmatisme, nous avons publié un ouvrage papier diffusé par le CDE en librairie autour de la pensée d'Andrew Abbott et de sa réception. Un gros ouvrage dont le premier volume existe sous forme papier et le second sous forme numérique exclusivement. Sinon, on dépassait le millier de pages. Donc ça nous a semblé plus cohérent de faire cet essai puisque le CDE qui est lié à Eden le diffusait en librairie de façon classique, que les représentants puissent aussi vanter la version électronique, que ça soit la même structure. Voilà. L'expérience est très récente, on ne peut pas encore vraiment tirer de conclusion. Et la deuxième expérience, c'est la collection audiographie, donc à l'extrême, une petite collection, 8 euros en librairie, entre 8 et 9 euros, moins de 6 euros en version électronique, qui est accessible à un public plus vaste, qui est tout à fait lisible, qui parfois même sert d'introduction à la pensée d'un auteur, et qui nous semblait, à travers le réseau des libraires, avoir toute la place dans ce dispositif, peut-être plus que dans un autre qui toucherait avant tout le milieu des bibliothèques universitaires. Voilà. Donc là, cette expérience, elle est toute récente, mais ça montre un petit peu la manière expérimentale, pragmatique, avec laquelle on souhaite avancer. Alors, la traduction dans tout cela, je vais céder la parole à notre consoeur, Maria, bien sûr. Je ne parle pas ici des revues. Notre expérience est encore assez maigre, il faut bien le dire, puisque même si on a traduit, si on a des gros ouvrages qui viennent de l'anglais, qui viennent aussi de l'espagnol, de l'argentin, il se trouve que pour le moment, ces textes ne sont pas encore diffusés électroniquement. Voilà. À part l'ouvrage du Abbott, autour du Abbott dont je parlais tout à l'heure, dont le deuxième volume, comme le premier, existe sous forme numérique et qui comporte une large part de traduction, en tout cas un moyen d'introduire un auteur, un grand auteur étranger qui compte vers le public français. Ce qui est certain, c'est que avec les frais de traduction, l'investissement au départ est beaucoup plus important. Voilà. Et donc, surtout pour une maison d'édition publique qui ne reçoit pas, par exemple, l'aide du CNN, il faut trouver un financement, soit un financement interne, soit un financement d'une fondation, soit une aide publique d'un pays étranger, celui de la langue d'origine. Et donc, si on devait décider l'open access, pour ce genre de livre, évidemment, le risque de perdre le fameux petit équilibre serait encore plus élevé. Bon. D'autre part, Maria en parlera mieux que moi, mais quand on achète les droits à un éditeur étranger, celui-ci, outre un avaloir, il demande aussi des royalties, un pourcentage sur les ventes. Évidemment, si on lui dit que l'ouvrage est gratuit, y compris sur la vente numérique, je suis pas sûr que ça suscite un enthousiasme débordant, ou alors le forfait qui remplace l'avaloir est multiplié par 3 ou 4. Bon. Voilà. Donc, alors, face à cela, comment résister à la tentation de l'anglais comme langue unique, internationale, pour la circulation des savoirs, renoncer à traduire des ouvrages circulant déjà en anglais, publiés en anglais, dans les collectifs, renoncer à traduire des contributions rédigées en anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre peut-être plus que quand la diffusion n'était que papier, des directeurs de collectifs qui nous disent, mais finalement, c'est inutile de traduire cette contribution, parce que les gens peuvent traduire en anglais, les lire en anglais, ils y ont accès. Et au contraire, même ça peut augmenter la diffusion d'ouvrages, ça permettra d'augmenter son périmètre de réception, etc. Et puis finalement, en poussant le bouchon un peu plus loin, pourquoi pas écrire directement en anglais et publier en anglais, quand bien même on est de langue française ou d'autres langues. Dans l'univers matériel, il y avait un frein évident, même des freins évidents qui s'opposaient à cela. D'abord, rares étaient dans cet univers papier les éditeurs, les libraires français qui étaient capables de vendre des ouvrages en anglais ou dans d'autres langues. Et même à l'export, notre diffuseur Gallimard Export, qui travaille avec un vaste monde, nous disait, s'il est en anglais, mes interlocuteurs, c'est les librairies françaises à l'étranger ou les librairies qui ont des rayons francophones. Donc, paradoxalement, il n'était pas plus armé pour vendre cela. Il faut se dire que dans l'univers numérique, ces freins sautent. Une analyse un peu rapide nous pourrait conduire à le penser. Mais d'abord, c'est sous-estimer que dans le circuit de vente, quand il y a des intermédiaires ou non, il y a des sombres histoires. Là, je ne rentrerai pas dans le détail de taux de TVA, de devises, de prix, d'ouvrage, etc., qui sont parfois des casse-têtes. Et on peut faire confiance aux grands agrégateurs internationaux, mais ils ne sont pas forcément présents dans tous les pays. Voilà. Alors on pourrait aller plus loin, on se dit, mais alors ce qui est compliqué, c'est le fait de recevoir un paiement, allons-y pour la gratuité, comme ça c'est réglé. Mais c'est peut-être confondre la disponibilité gratuite sur un site utile prestigieux et la diffusion. Et ce sont deux, on y reviendra lors de la discussion, ce sont vraiment deux notions différentes. Diffuser, c'est vraiment s'appuyer sur un réseau d'intermédiaires, de prescripteurs locaux qui font des sélections, qui ont créé des relations de confiance avec leur public, leurs différentes bibliothèques. Et évidemment, c'est un réseau qui est d'autant plus actif qu'il n'est pas bénévole, que dans la scène, les gens qui sont intéressés et ont envie de se battre pour vendre. Voilà. Donc, au-delà de cette tentation, l'auto-édition en langue anglaise, avec toutes les limites, les risques que je viens d'éviter, je crois que surtout, et c'est ça le fond, en renonçant à la traduction, on anéantit le rôle précieux de la médiation qu'accomplit l'éditeur et les chercheurs qui travaillent autour de la traduction. D'abord, l'éditeur ou l'interlocuteur dans une langue, dans un bassin linguistique, l'éditeur étranger qui accepte une traduction, est souvent le mieux placé pour choisir le livre, pour sélectionner, quand il s'agit d'un ouvrage collectif, les contributions qui l'intéressent, pour éventuellement commander une préface à l'auteur, de façon à introduire dans le public qui vise l'ouvrage 10 ans après. Parfois, c'est l'auteur lui-même qui le choisit. Et puis, renoncer à la traduction d'un livre, c'est aussi à renoncer à toute cette partie épistémologique très importante. Et ça, le travail de Gisèle Fapiro et d'Hélène Cellier, que je salue ici, le média en avant, la traduction, c'est aussi l'interrogation de concepts qui paraissent évidents dans une autre langue, c'est la critique de ces concepts, c'est une autre manière de les aborder, et tout ça, ça n'est possible qu'à travers ces prismes de langues différentes. Sans compter que pour introduire un auteur auprès d'un public citoyen, et pas simplement de chercheurs qui parlent anglais plus ou moins bien à travers des articles, la meilleure manière de l'introduire auprès d'un nouveau public, c'est à travers l'ouvrage d'abord, et c'est à travers la traduction de cet ouvrage d'autre part. Voilà. Donc, pour la fin, je suis un peu dans des considérations plus générales et j'ai moins d'exemples concrets à montrer, mais Maria va nous parler maintenant de son travail.
Les questions, c'est à la fin.
Oui, d'accord. Si vous êtes d'accord, on fera les questions après.
Ah, ça va, c'est un livre qu'on peut essayer.
Oui.
Après, parce que je. Ouais.
Ah, je peux changer de place. Hein.
Oui, c'est bon. On peut terminer ça. Mm-hmm. Ça.
Je ne l'ai pas encore, il sert à faire. Parce qu'il n'est pas complètement rentré, du coup ça vient d'air.
Ah.
Ça va là.
D'accord.
déjà. Donc je peux commencer. Donc je vais juste présenter un peu le PUF, voilà, vite fait, pour justement pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est reparti.
Voilà, c'est bon.
Donc quand on m'a proposé de parler, donc voilà, aujourd'hui je me suis dit, voilà, comment fait-on pour aborder tout ça? Donc moi je voudrais bien vous parler justement, voilà, de la vie numérique des traductions SHS, vue et commentée donc par un éditeur privé. Et poser justement une question qui pose beaucoup de problèmes et qui est intéressante. Est-ce que la diffusion numérique de la pensée française dans le monde entier doit avoir un prix à tout prix? Voilà.
Tu peux mettre ce qu'on veut dire pour un moment,
ou... Oui, oui, bien sûr. Voilà.
Vous entendez bien?
Oui, mais...
tu parles un tout petit peu plus fort. Hein.
D'accord.
Oui, avec la soufflerie, ça.
Il y a un peu de problème là. Ça arrive mal, ça. Attends. Je sais pas ce qui se passe.
Attends. Ouais, c'est pour
défoncer. Ouais.
Je pense que c'est plutôt l'ordinateur.
Oui, si je peux. Attends, le début.
Voilà, c'est dans votre
tour. Ouais.
Vas-y.
Très bien. Donc, voilà. Donc, fondé donc en 1921, donc, par un collège de professeurs. Donc, les presses universitaires de France éditent les sciences humaines et sociales depuis près de 100 ans. Ils sont forts dans un catalogue de 6500 titres actifs. Donc, je ne vais citer que quelques noms d'auteurs, donc, parmi lesquels Bergson, Bachelard, Mauss, Althusser, Derrida, Foucault. Et parmi les contemporains, Badiou, Gonsconville, Simondon, Kepel. Voilà. Et il ne faut peut-être pas oublier que dans les catalogues de PUF, on y retrouve aussi les fonds de trois éditeurs dont le rôle a été central pour la diffusion de la pensée française depuis la seconde moitié du XIXe siècle, Alcan, Rieder et Leroux. Donc, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, les PUF publient environ 350 titres. Donc 200 nouveautés et 150 nouvelles éditions, réparties entre différentes collections historiques ou récentes, et une part croissante de titres que nous on appelle hors collection, voilà, destinés à aborder des sujets souvent en lien avec l'actualité, sous forme d'essais, d'interventions moins académiques. Donc les deux collections les plus connues, collection Kessège et la collection Kadrige. Donc, depuis sa création en 1941, Kessège rencontre un immense succès avec plus de 4200 titres publiés, près de 200 millions d'exemplaires vendus et des traductions justement en 44 langues. Aujourd'hui, Kessège est beaucoup plus qu'une collection, c'est une vraie marque avec plus de 700 titres actifs et l'une par ailleurs des plus importantes bases de données internationales construites pour le grand public par des spécialistes. Donc la politique d'auteur, la régularité des rééditions, l'ouverture aux nouvelles disciplines, l'universalité des sujets traités, le pluralisme des approches, voilà, tout ça constitue un réseau d'informations et des connaissances adaptées aux exigences de la culture contemporaine. Kadrige est une autre collection emblématique qui réédite ou reprend de nombreux textes de référence sous un format type poche. J'ai dit type parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas d'accord. Ils trouvent que c'est trop cher. Donc c'est du semi-poche peut-être. Voilà. Et ces deux collections que je viens tout juste de vous montrer sont les collections les plus exportables. Donc les autres principales collections, voilà, environ 25, sont animées par un directeur de collection externe et couvrent tous les champs des sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie, histoire, droit, psychanalyse, géopolitique. Les PUF entretiennent aussi un portefeuille conséquent d'une trentaine de revues dans ces champs de prédilection, dont notamment la revue française de psychanalyse, la revue historique ou la revue d'histoire littéraire de la France. Donc, l'actualité de la maison est axée sur la mise en œuvre de plusieurs chantiers d'innovation à forte composante numérique. La réouverture de la librairie de PUF, au quartier latin, après 17 ans d'absence, dans un format novateur, dans une librairie qu'on appelle Infini, à la demande, offrant plus, je pense, de 3 millions de titres au public, dont nos titres actifs. Et la refonte complète, justement, de notre site web, pour en faire en plus d'un catalogue et d'une vitrine, une librairie en ligne et un média favorisant la découverte des auteurs. Donc, maintenant, les ventes numériques représentent environ 10% de l'activité des PUF. Elles se partagent entre des ventes à l'unité de livres, donc tous les Kessège, par exemple, sont disponibles en format numérique, ainsi qu'une grande partie de nouveautés et une partie du fonds. Mais il y a aussi les importants revenus des licences, essentiellement en provenance de l'exploitation par Cairn.org auprès des bibliothèques universitaires, dont la maison est devenue actionnaire minoritaire en 2015. Donc, parmi les succès commerciaux donc, le plus notable de la maison, on trouve une traduction. De l'italien, les lois fondamentales de la stupidité humaine, qui s'est vendue, je pense, à 60 000 exemplaires, et Économie du bien commun, publié récemment et écrit par Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Donc, les titres des grands auteurs reconnus de la maison rencontrent aussi des succès notables et souvent durables, y compris par les cessions de droits dont je vais vous parler, et qui pèsent pour près de 10% de l'activité. Donc, j'ai le privilège de présenter un catalogue aussi prestigieux, mais j'ai aussi la lourde tâche d'atteindre des objectifs chiffrés dans un contexte économique particulièrement difficile, d'autant plus que l'activité des sessions, donc les traductions, l'activité est imprévisible, tu le sais, Anne, et car d'une part, elle dépend d'un programme éditorial destiné a priori au lectorat français, et d'autre part, car elle n'est pas marquée par des périodes fortes. la foire du livre de Francfort n'en est plus une depuis quelques années. Donc nos partenaires sont souvent fidèles, mais ils ne sont pas abonnés. On n'est pas sûr de les avoir tous les ans. Ils peuvent être parfois douteux. Les clauses des contrats ne sont pas toujours respectées. Les factures sont parfois payées avec retard ou pas payées du tout. Ils sont surtout confrontés pour la plupart aux mêmes difficultés que nous, ce qui les oblige à faire moins de traductions ou, pour être plus précise, moins de traductions à risque. Ils préfèrent acheter des ouvrages de référence plutôt que des nouveautés, même si ces dernières sont en réalité les seules à faire l'objet d'un travail de prospection de notre part. Enfin, le prix de chaque session est différent puisqu'il est calculé en fonction des caractéristiques de chaque projet. Donc le tirage, le prix des ventes envisagées et justement les droits électroniques. Donc en fonction aussi de l'importance de l'auteur, des spécificités de chaque marché et des moyens réels des éditeurs étrangers. Donc autrement dit, les prix uniques n'existent pas dans notre vocabulaire. Donc ce constat est vrai, mais pas nécessairement triste. Donc un programme éditorial peut être en partie exportable, surtout quand un directeur éditorial connaît bien les marchés internationaux. Nos partenaires ne sont pas abonnés, comme je viens de le dire, mais ils ont le mérite d'exister. Ils sont bien identifiés, contrairement au public français, dont le profil n'est pas toujours facile à cerner. On parle toujours du grand public, on veut exactement savoir ce que c'est, on ne sait pas toujours. Donc pour la plupart, ils font preuve d'un professionnalisme exemplaire et d'un courage contagieux. Et de plus, ils achètent souvent des titres pour lesquels nous ne faisons aucune démarche commerciale. Donc et si leurs traductions sont rarement des best-sellers, elles génèrent des droits d'auteur annuels, certes moins significatifs qu'avant. Et enfin, si nous ne sommes pas aidés par les prix, par le prix unique du livre, nous ne sommes pas non plus conditionnés. Voilà. Le prix d'une session, il peut aller de 200 euros à 5 000 $ et encore plus. Donc voilà, la promotion donc des idées de nos auteurs ne nécessite aucune logistique, n'engendre aucun coût de stock. Elle est rentable. Donc les disciplines les plus exportables, là je parle du catalogue PUF, hein. C'est la philosophie, la psychanalyse, la sociologie et l'histoire. Quant à l'activité du service, elle affiche une hausse intéressante avec une moyenne de 400 sessions par an. En 2014, d'après le SNE, ont été réalisées 1166 sessions en sciences humaines et sociales.
On avait vu ces chiffres un petit peu.
Dont 338 par le PUF. Donc c'est quand même les 29% du nombre total des sessions. On en est fiers. Donc, ces sessions sont réalisées grâce, justement, je n'ai pas mis ça sur les slides, mais ça va de soi, c'est grâce au catalogue qui est exportable. Grâce à une prospection ciblée, aux foires internationales auxquelles nous participons, aux voyages d'études que nous organisons, et à notre collaboration étroite avec les institutions françaises, donc les acteurs publics. Qui accordent des aides à la session ou à la traduction et qui soutiennent les rencontres que nous initions et qui participent à l'effort, voilà justement qui est actuellement mené au sein de l'édition scientifique, d'ouvrir donc une réflexion collective sur la diffusion de la pensée française à l'étranger, sur les pratiques des éditeurs privés et publics et sur les problèmes liés à la traduction scientifique. Donc, je vais être moi aussi pragmatique. Plusieurs projets aboutissent grâce aux traducteurs qui démarchent eux-mêmes les éditeurs étrangers ou nous aident, nous, à prospecter nos titres. Et en même temps, un grand nombre de projets ne voient pas le jour à cause des problèmes qui sont liés à la traduction. Donc le temps de traduction est parfois long, soit parce que le texte est très exigeant, soit parce que le traducteur exerce plusieurs métiers à la fois. Les traducteurs ne sont pas toujours spécialisés dans le domaine considéré. Le coût de la traduction est un critère significatif pour l'achat des droits. Je viens d'évoquer ça, Baptiste. Donc si la traduction est un ensemble d'obstacles financiers, culturel et linguistique, elle est surtout un acte nécessaire de communication. Je suis d'accord, les traducteurs est un auteur, un intellectuel, un passeur. C'est celui qui donne à un texte une deuxième vie et très souvent, pour les catalogues de PUF, une deuxième chance. Il y a un bon nombre des titres de notre catalogue qui ont été réimprimés suite à plusieurs projets de traduction, voilà, qui ont vu le jour. Et puis, les projets de traduction donnent aux auteurs la possibilité de mettre à jour leur travail, de la bibliographie, d'ajouter des chapitres, des préfaces, des postfaces, c'est-à-dire un appareil critique tout à fait inespéré parfois. Maintenant, les droits numériques. Seulement 20% des sessions réalisées en 2016, mais c'est pareil, hein, la tendance est la même. J'ai regardé aussi 2015 et 2014. Seulement 20% des sessions stipulent les droits numériques. Donc ça vous donne une idée du marché. Les PUF ne cèdent jamais les droits numériques d'office, par défaut. Il faut que l'éditeur étranger en fasse la demande. Donc il faut qu'il y ait un projet d'exploitation numérique. Et donc une telle session a lieu quand le cessionnaire envisage à la fois une édition papier et une édition numérique dès l'achat des droits de traduction. C'était par exemple le cas ici, donc la traduction en anglais d'un ouvrage d'Étienne Souriau par Univoco. Donc ils ont publié en même temps l'édition papier et l'édition électronique. Mais d'autres éditeurs vont demander les droits numériques parce qu'ils souhaitent, justement dans un souci de valorisation du fonds, rendre disponible une traduction dont l'édition papier est épuisée et conserver par la même occasion les droits des traductions sans procéder à une réimpression. Par exemple, Psychology Revival, c'est une collection de Routledge. Depuis 2 ou 3 ans, publie des traductions publiées dans les années 50. Et donc, ils font un petit tirage et ils passent après au numérique.
Les coûts des livres, ils les vendent
à peu près le même livre, si c'est vraiment au même moment. Là, tu parles de
oui.
Routledge.
Oui, Routledge.
Oui. Oui. Donc, les droits numériques sont demandés essentiellement par les éditeurs anglo-saxons. Espagnols et moins systématiquement par les éditeurs brésiliens, italiens et coréens. Donc ces éditeurs, c'est vraiment les deux extrêmes. Il s'agit soit des éditeurs qui font partie des groupes d'édition qui ont les moyens, la stratégie commerciale qui va avec, soit les tout petits éditeurs indépendants dont le catalogue est sélectif et dont la stratégie de commercialisation est axée dès le départ sur le papier et le numérique. Ils ne font pas la différence. C'est la nouvelle génération, voilà. Nous, on parle encore, on distingue encore, mais les jeunes éditeurs d'acquisition et les jeunes éditeurs, je n'ai pas l'impression qu'ils font ça. Après, certaines maisons d'édition gardent la possibilité de céder les droits numériques à un éditeur étranger différent de celui à qui elles cèdent les droits papier. Notamment si ces derniers ne publient pas encore de livres numériques. Donc d'autres refusent car elles ne trouvent pas d'accord sur l'échelle des royalties ou elles estiment que la sécurité proposée à l'ouvrage numérique n'est pas suffisante. Mais au PUF, la raison la plus importante est autre. Pour céder les droits numériques, il faut en être propriétaire. Or, les contrats d'auteur signés avant les années 2000 ne stipulaient pas les droits numériques. Vous allez me dire qu'un avenant est toujours possible, mais à condition que l'auteur ou l'ayant droit soit en vie, joignable et d'accord. Pas gagné. Après, pour les justificatifs de parution, on a le réflexe de demander les exemplaires justificatifs papier. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours le réflexe de demander un justificatif de parution numérique. On parle toujours des problèmes par rapport au taux de rémunération. Dans plusieurs études, on voit que voilà, il y a des éditeurs qui refusent de céder les droits parce qu'ils n'arrivent pas à un accord financier. Ma foi, les ventes sont encore très limitées pour justifier quoi que ce soit, les paliers de rémunération. La norme, c'est 25% sur les recettes, sur les revenus nets. Donc, en disant net, je me réfère justement au son payé à l'éditeur moins la TVA et les remises. Donc, les PUF travaillent avec les éditeurs privés, les éditeurs publics, les associations et des centres de recherche. Donc, les modèles économiques sont différents. Donc, nous, on doit s'adapter aussi. Je voulais juste vous montrer que pour cette édition allemande de l'ouvrage Le structuralisme de Jean Piaget, on a l'édition papier. Il y a les deux premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement en format numérique. Et puis il y a l'e-book qui est en vente à un prix moins important quand même, 1 euro, c'est presque 16. Là c'est le carreau de Ledge dont je viens de vous parler. Donc pour l'open access, c'est quand même pour ça qu'on est un peu ici. Je voudrais vous parler donc de ces projets de traduction. Donc ce centre de recherche, le FANA, il nous a contactés il y a 3 ans pour nous dire que nous, on voudrait bien traduire cet ouvrage en allemand, le commercialiser et puis mettre en ligne, en open access, la traduction. Comment fait-on ? Comment fait-on pour dire oui ? Comment fait-on pour... calculer les droits d'auteur. Donc il y a plusieurs réflexes et puis surtout de la bonne volonté. Il faut que les deux parties jouent les jeux. Donc le premier réflexe, la première chose que je dois faire moi, c'est soumettre les projets à l'auteur, en l'occurrence à l'ayant droit. Si l'ayant droit n'est pas d'accord, je ne peux rien faire. Mais si elle est d'accord, comme ce fut le cas, on valide le projet et puis on envisage une rémunération forfaitaire, limitée dans le temps, et on voit comment ça marche. Il se trouve, très bonne surprise, par les éléments que je peux recevoir, que l'open access, c'est-à-dire le fait que la traduction est en ligne gratuitement, a boosté les ventes de l'édition papier.
Donc. Sur papier en français ?
Non. En allemand.
En allemand, d'accord, ok, oui.
Donc on sort gagnant de cette histoire. c'est-à-dire l'édition papier est bien vendue. On a la somme forfaitaire convenue pour la mise en ligne sur Open Access. Donc je ne vois pas où est le problème. Après, pour les traductions, voilà, on est, comment dire, on est très dépendant du contrat d'auteur. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas changer les choses une fois en route. C'est-à-dire, s'il y a un contrat d'auteur qui stipule, voilà, une exploitation numérique, un accord, un refus, on ne peut rien faire par la suite. C'est surtout au niveau des droits premiers que tout se décide, que tout se joue. Après, a priori, tous les auteurs veulent être traduits, encore mieux, bien traduits, mais vendus aussi. Hein. Enfin, c'est aussi important. Donc, pour moi, l'objectif premier de l'Open Access, qui est de faire connaître les travaux des chercheurs, pourrait être pour les éditeurs privés une solution pour faire connaître l'édition papier. Il faut savoir aussi que ce qui est pour nous un ouvrage de référence, un titre phare de notre backlist, une fois cédé, cet ouvrage est pour l'éditeur qui se lance dans sa traduction une nouveauté. Donc, ce décalage est très important dans la commercialisation. Donc, l'éditeur qui voudra vraiment présenter l'ouvrage à un lectorat, un marché spécifique, veut avoir toutes les chances de son côté. Et nous aussi. Après, nous, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, parfois, on cède. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein.
On est en Grèce là.
Ah bah oui. Non, là c'est Barcelone.
Ah oui.
Depuis cette photo prise depuis la fondation Miro. Voilà. Je voulais juste en fait vous montrer un exemple de relevé des ventes. Parce que en fait, c'est là où on... Alors, pourquoi ça? Regarde.
C'est pas vrai, ça.
Moi, j'ai le relevé.
Il est pas sur... Est-ce qu'il est sur... Oui. Peut-être il faut que tu refermes.
Ouais. Donc, en fait, c'est là où on voit les ventes de l'édition papier. On refait. Oui. Les ventes de l'édition numérique, donc on peut déjà faire nos petits calculs et voir la part justement. Ah ben.
Bon, si je le laisse.
Donc la part, c'est pas grave. Voilà, la part, voilà. La part en fait. Donc là, on a les exemplaires papier. Là, on a les units. Voilà, vendus.
Vous voyez, on voit
tout de bon.
C'est-à-dire, moi, je ne vois rien.
Allez, 1631 donc, exemplaires vendus dans le deuxième semestre donc 2015 pour la politique de l'espace en anglais et 711 e-books. Bon, j'ai pris tout le relevé des ventes. Bon, il se trouve qu'on a... On a des logiciels qui vous aident. Donc, on arrive à cette conclusion. Il n'y a que 5% des relevés facturés. C'est-à-dire, les revenus des ventes numériques représentent 5% du montant total facturé des ventes. Donc, ça montre plusieurs choses. Soit le marché n'est pas là, soit la stratégie de commercialisation n'est pas encore très peaufinée. On ne sait pas encore comment faire ça. Soit tout simplement qu'on préfère encore, et peut-être pour longtemps, l'édition papier, les sachets. Je pense qu'en Allemagne, il y avait une étude où le format des références est toujours le hardcover.
Oui, bien sûr.
Et que la non-fiction se limite à 5% des ventes e-books. Donc ça revient exactement. On a les mêmes chiffres. Donc voilà.
Mais est-ce que tu as une évolution en fait par rapport à. Là, c'est un exemple, 5%. Bon, mais est-ce que.
Non.
Puisque
c'est le même, la tendance.
Sur la vente France, tu disais 6,5% aujourd'hui.
Non, au niveau des traductions, c'est ouais. Pareil. Et puis les relevés des ventes aussi nous disent des choses parfois, comment dire, ils révèlent des petits secrets, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éditeurs qui procèdent à l'exploitation numérique d'un ouvrage dont ils n'ont pas les droits. Donc, oui, parce que le relevé part de la compta et part le juridique. Donc, après, tout s'est fait de façon paisible. Enfin, on écrit, et puis on régularise. Mais pour vous dire que le relevé de vente, et en lisant des relevés, on apprend pas mal de choses. Et puis il y a des éditeurs justement qui envoient des relevés des ventes différents pour l'édition papier et l'édition numérique. Voilà.
Je pense qu'il va y avoir tout de suite des questions.
Bonjour, je suis traductrice vers l'anglais. Vous avez tous les deux parlé de casse-tête et de problèmes qui freinent un peu votre travail, ou même parfois les ouvrages tombent à l'eau à cause de ça. Et je voulais savoir si vous avez quelques exemples.
En fait, les projets les plus difficiles à traiter sont c'est plutôt quand nous la logique d'un éditeur privé justement est confrontée au raisonnement à la logique d'un éditeur public. On travaille beaucoup avec de vraies presses universitaires. Je dis de vraies parce que nous, on est une maison d'édition privée. Et donc, ils ont d'autres soucis, d'autres priorités. Moi, je sais que je dois expliquer à la direction pourquoi on fait une telle ou telle session à titre gracieux. Une cession à titre gracieux n'est pas conforme aux usages.
Mais si je peux ajouter, nous, en tant que maison d'édition privée, publique, on fait très peu de cessions à titre gracieux. Parce que, mine de rien, on a constaté que ça ne favorise pas les projets. Même il vaut mieux que l'éditeur paye une toute petite somme, mais s'engage financièrement à terminer le projet. Et c'est le même cas pour nous quand on a des projets de traduction qui traînent et qu'on a des problèmes autour de la traduction. Le fait qu'on ait payé les droits d'auteur, la cession de droit, nous fait finir le projet, dire on a investi et il faut y aller.
On s'engage, en fait.
Et quand la traduction est subventionnée de l'extérieur, il arrive aussi que l'éditeur traîne un peu plus, que ce soit une expérience qu'on a nous eue ou bien que l'on voit chez d'autres éditeurs partenaires. Donc quand même ça compte.
Oui. Et je pense que c'est aussi une question d'un raisonnement assez classique, c'est-à-dire comment fait-on pour amortir les frais? Si on ne dépense rien, je ne sais pas.
Il y a quand même une petite bémol à ce que vous venez de dire, mais je pense que dès qu'un projet est d'envergure, vous avez raison, on négocie une session à titre payant, même si on réfléchit au, à un certain nombre de données, je vous incite à ne pas trop repousser nos besoins trop loin, si c'est un petit éditeur, un éditeur dans son nom, c'est difficile, etc. Ça, c'est pas tout ça. Et quand il s'agit de petites sessions, entre guillemets, pour des morceaux de contribution, etc. Là, c'est vrai que, donc, si c'est un éditeur public, en tout cas, le délai de, enfin, le traitement d'une somme ensuite à en reverser à un parti ayant droit est tellement lourd qu'il arrive parfois de consentir à une session à titre gracieux.
Oui, pour les sessions partielles.
Mais oui, mais ça, c'est valable même pour nous, les droits de reproduction. Là, vous parlez d'un extrait. C'est pareil. C'est pareil. Mais est-ce qu'on doit justement céder les droits à titre gracieux parce que c'est trop compliqué, parce que le suivi comptable est trop compliqué? On peut se poser la question. Parce que c'est quand même des droits d'auteur. Mais nous aussi, ça nous. Moi aussi, je me dis souvent, je dois choisir mes combats. Parce que ça aussi, ça demande une énergie quand même conséquente, enfin, de négocier tous les jours. Donc, il faut aussi, c'est ce que je dis tout à l'heure, à prendre en considération le moyen réel des éditeurs qui font la demande. On ne peut pas imposer, on ne peut pas jouer avec les mêmes règles avec tout le monde. Voilà. Il y a des principes. On va calculer les droits en fonction du prix des ventes et du tirage. Mais on n'est pas en supermarché. Il n'y a pas des tarifs. Il n'y a pas les mêmes tarifs pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas. Tout projet est examiné cas par cas. Et puis on négocie. On négocie. Nous, on propose. Si ça passe pas, il va y avoir une contre-offre et puis ça peut durer, comme ça peut se faire très facilement. Mais voilà, le prix unique n'existe pas. Nous, on ne sait pas ce que c'est.
Une question ? Non. Stéphanie. Je travaille dans une première édition d'un centre de recherche sur l'Europe centrale et orientale. Et donc, on publie des auteurs qui sont partis des choses du centre, comme les dernières, mais c'est vrai que le lectorat n'est pas très vaste parmi les lectorats francophones. Il y a aussi un intérêt à publier certains ouvrages en français et aussi à réfléchir à la traduction en anglais, en fait. C'est vrai que ça coûte très cher, la traduction d'un ouvrage, en fait.
Ouais. C'est suicidaire, même, parfois.
Ouais. On peut pas le faire. Oui, c'est ça, c'est des choix. Mais je me demandais quelles étaient les possibilités de subvention ou d'aide pour la traduction en anglais.
Pour traduire du français vers l'anglais. Alors là, je suis pas la personne vraiment. Parce que moi, je ne suis responsable que pour la vente des droits. J'aurais bien aimé. Oui. Bon, je pense qu'après, ça dépend de chaque pays, hein, parce qu'il y a des... En Allemagne, je sais, il y avait un programme.
Il y a un programme qui subventionne les femmes.
Mais en anglais, je ne sais pas.
Mais là, vous parlez de textes écrits en français.
Oui. Publiés en France.
Publiés en français.
Et ensuite, dont on pourrait céder les droits. Mais c'est vrai que ce qu'on recherche aussi, c'est de... des lecteurs, d'élargir un lectorat, donc de publier.
Donc pas céder les droits, publier vous-même.
C'était un peu la question que je posais tout à l'heure. Oui. Est-ce que aujourd'hui, avec les nouveaux moyens, les éditeurs de sciences humaines en France prennent la décision de choisir d'autres langues de publication
première? Oui, de publier, pas forcément publication première, parce que nous on regarde pour publication première le français en fait. Hein.
Et de faire une deuxième édition.
Ou de qui le publie ailleurs aussi, hein. C'est comme ça pour un auteur de chez nous, pour l'aider à publier en anglais en fait.
Publier ailleurs, mais à condition de financer la traduction, c'est souvent ça.
Une partie, parce que j'ai vu que le CNM pouvait aider pour la moitié de la traduction en fait.
Alors, le CNL n'aide pas les éditeurs publics, faut bien le savoir. Déjà, c'est exclu. Ensuite, il y a le programme effectivement qui a été mis en place pour les revues, qui est exactement ça dont on a parlé à la dernière séance, qui était vraiment un programme d'aide à la publication vers l'anglais de d'articles de revues dans le cadre d'une diffusion spécifique, Cairn, international notamment, et ce programme a été arrêté. Mmh. Voilà. Hein, donc, est-ce que ça peut conserver des, est-ce que ça peut concerner des ouvrages, peut-être Delphine, tu peux dire quelque chose, donc Delphine Men, qui travaille à Cairn international.
Oui, c'est des ouvrages.
Mmh. Alors,
alors, moi je pense qu'il y a, alors l'Institut français, il y a aussi, je pense, des débats internes où les gens ne sont pas forcément d'accord avec le principe d'éditer en anglais.
Oui.
Mmh. Et que la France subventionne les traductions vers l'anglais. Les financeurs les plus naturels, là, c'est les centres de recherche et les programmes surtout. Oui. Pas tellement les centres qui n'ont pas tellement de financement maintenant, mais les programmes. Mmh. À l'EHESS, le programme TEPSIS a des fonds pour. Mais des fonds du coup qui est destiné aux auteurs, donc aux chercheurs, qui doivent candidater. La procédure est assez quand même complexe et ça doit. Et c'est conditionné au fait d'avoir un éditeur. Dans le. Enfin, d'un éditeur anglophone.
Un éditeur étranger.
Voilà, c'est ça. Je pense que l'idée, contrairement à d'autres pays, je veux dire en Hollande, les éditeurs éditent spontanément en anglais. Il y a plein d'autres pays, la Belgique aussi, je pense. Et puis, tu disais qu'en Allemagne, il y a des projets importants d'aide à la publication en anglais. C'est l'État, ce sont les fondations.
C'est le Börsenverein des Deutschen Buchhandels. C'est l'organisation, la réunion des libraires ou du domaine de la librairie, mais c'est pas. Programme d'État, bien qu'il y ait des subventions d'État, mais c'est à part parce que la manière est uniquement orientée vers l'anglais, il n'y a pas de CNL ni rien, c'est juste un programme qui finance précisément, et pas non plus des tonnes, quelques livres, pas beaucoup, hein. Je ne sais pas, je ne peux pas dire un à deux, mais pas beaucoup de livres qui sont traduits à l'anglais, et ce n'est pas le traducteur, c'est pas votre cas, c'est pas l'éditeur même qui. C'est ça, mais je cherche un éditeur après aux États-Unis. Dans votre cas, pour un éditeur privé, ça pourrait être le CNL, sinon je ne sais pas.
Alors, pour les presses de Sciences Po, Sandrine Moisin a expliqué la dernière fois que pour la collection qu'ils ont en collaboration avec un éditeur britannique, Hearst, c'est le centre de recherche de Sciences Po en fait, qui finance. Oui. La traduction complète dans le cadre d'un accord d'édition. Et du coup, l'éditeur britannique s'est engagé à publier un ouvrage par an, hein, je crois que c'est ça le rythme. Et même l'édition est faite à Paris, puisque l'éditrice était avec nous d'ailleurs, Myriam Perrier. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà.
Moi, je voudrais ajouter une chose par rapport justement à la langue anglaise. J'ai visité il y a 2 ans des librairies internationales à Berlin. Et je pensais justement y trouver quelques livres en français. Et donc, à ma grande surprise, j'ai trouvé. Presque tous les philosophes français de notre catalogue en anglais. Donc, et j'ai demandé en fait au libraire, je lui ai dit c'est une librairie internationale, vous auriez pu par exemple commander l'ouvrage au pays voisin plutôt que de commander justement la traduction de Winnipeg des États-Unis. Et il m'a dit que ses clients, c'est des gens qui ne lisent que l'anglais. Donc, la philosophie française les intéresse, mais elle est servie par les anglo-saxons.
Oui, mais combien de livres en allemand vous vendez à l'écurie internationale en France?
Il n'y a pas d'export.
Les Allemands parlent anglais, c'est tout, mais je sais pas.
C'était où cette librairie internationale?
À Berlin.
À Berlin.
Non, c'est sûr qu'il faudrait y avoir un segment dans l'autre langue.
D'accord.
Mais je ne sais pas, je ne suis pas, experte de...
Non, parce que après, justement, j'en ai parlé aux éditeurs allemands de ça et on m'a dit que... Parce que je voulais juste savoir, dans un premier temps, au niveau des sessions, est-ce que les Allemands n'achètent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés ou parce qu'on ne peut pas bien notre travail? C'était juste, c'était une question. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'éditeurs d'acquisition qui ne lisent plus, enfin qui ne lisent pas le français.
C'est sûr.
Tandis que les éditeurs d'acquisition d'un certain âge, bon, qui sont partis à la retraite, étaient justement francophones. Donc je me demande en fait si au niveau justement de la cession des titres du français vers les langues étrangères, si voilà ce problème de francophonie devrait se poser.
Est-ce que vous constatez ça aussi quand vous promenez à Florence ou à Venise ou à Coimbra ou dans les...
Non,
c'est propre à l'Allemagne.
C'est plus en Allemagne, mais les éditeurs d'acquisition, les jeunes éditeurs d'acquisition en général, dans le monde entier, lisent certainement l'anglais, mais pas forcément le français.
Mais du coup, est-ce que votre démarche, c'est d'essayer de vendre les titres d'abord en anglais pour finalement séduire les
justement
éditeurs d'autres langues,
ou exactement l'inverse, c'est-à-dire si traduction anglaise voit le jour, les autres portes se ferment. Tout simplement. Parce qu'elle est disponible en anglais. Donc ça dépend. Mais ça m'intéresse parce que c'est... En fait, nous... Comment dire... À Francfort, mais... lors de voyages d'études, enfin, nous, on rencontre les éditeurs d'acquisition. Ce sont les gens qui décident. Alors... Pour décider si on aime ou on n'aime pas, si ça va ou si ça ne va pas, il faut être en mesure de pouvoir lire l'ouvrage. Nous, on peut faire tous les catalogues du monde, l'identité graphique, on peut rajouter des vidéos avec les entretiens. Voilà. On peut faire tout ce que vous voulez, on peut même leur dire, écoutez, on a trouvé une subvention, la traduction voilà, est gratuite. Ben, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut que ça, il faut que cela nous concerne pour qu'on achète.
Ça, c'est très important.
Parce que les chercheurs, parfois, le débat, c'est... Mais parce qu'en fait, ils se disent que c'est parce que la traduction coûte cher que mon ouvrage n'est pas traduit. C'est vrai, ça pourrait être une raison, mais ce n'est pas une raison suffisante.
Je crois que c'est lié à la fin d'une certaine époque, mais dans un sens plus général, parce que c'est vrai qu'il y a moins de lecteurs français, et c'est sûr que les Allemands sont les premiers pays en Europe qui adorent l'anglais. Mais c'est aussi la fin d'une époque, c'est-à-dire ce que moi j'entends tout le temps des gens qui sont là depuis 30 ans et qui ont massivement traduit tous les français vers l'allemand, parce qu'il faut quand même dire que l'Allemagne a beaucoup, beaucoup traduit.
Bien sûr.
Ils sont frustrés. Parce qu'eux, ils ne sont jamais traduits vers le français.
D'accord.
Alors, ils se disent, pourquoi on fait tout ça?
Ils ont raison. Au PUF, nous, on traduit très peu.
Voilà, c'est une question peut-être qui peut... Peut-être que, Maria, tu pourrais éclaircir quelle est la politique d'intraduction des...
Ben justement, qu'est-ce qu'on traduit? On traduit, en fait, depuis les langues que maîtrise, que peut lire notre directrice éditoriale. Moi, j'arrive parce que à Francfort, on rencontre quand même des éditeurs du monde entier qui arrivent avec leur chef-d'œuvre, avec leur pépite, et qui nous disent tu fais ça, Monique, tu dis que ça vaut la peine. Je sais que si c'est le portugais, ça n'ira pas plus loin que ça. Après, vous allez me dire on a des comités de lecture, on peut passer à un collègue. Mais pour passer, il faut qu'on soit déjà intéressé pour passer un livre à quelqu'un. Et pour lui dire qu'est-ce que t'en penses, alors c'est intéressant ou pas? Donc on traduit de l'italien, de l'allemand justement, et de l'anglais.
Alors là, vous avez évoqué dans l'autre sens les langues européennes, le rôle de l'anglais, qui du coup, si une traduction existe en anglais, dissuade de publier. Mais est-ce que le processus est le même pour l'Asie? Est-ce que, par exemple, les Chinois, s'ils ne traduisent pas en anglais, du
non.
coup...
Voilà. Non, mais là, il y a un autre décalage, parce qu'en Chine, tout est impressionnant. Ouais. Donc, si on achète un titre de Piaget, il faut acheter tous les titres de Piaget. Parce que soit on le fait, voilà, de façon vraiment impressionnante, soit on a un chantier avec 45 traducteurs et 30 superviseurs, soit on ne le fait pas. Donc, c'est culturel, hein. Et puis après, la Chine achète, je pense que tu seras d'accord avec moi, beaucoup depuis au moins 2012.
Y compris des ouvrages de fond qui sont épuisés, qui font 2000 pages, des thèses des années 50. Donc ça, j'avais déjà vu.
Et les Chinois ne demandent presque jamais les droits numériques. Oui, mais le marché est là, et on s'est dit, les Japonais non plus. Parce que ce sont des éditeurs SHS, voilà, qui ont leur propre logique, parce que... Voilà, après, j'ai parlé tout à l'heure des éditeurs espagnols, c'est parce que c'est Planeta qui a cette politique. Donc, quand on va à Barcelone, justement, visiter Planeta, c'est meuble à 7 à 8 étages, on y voit tous les éditeurs. Moi, les rendez-vous, je les ai faits en descendant et en montant les escaliers. Donc là, on comprend, parce qu'il y a une politique, parce que la direction du groupe dit, voilà, vous demandez les droits numériques, et par la suite, vous les commercialisez aussi. Mais le marché, j'ai l'impression que... Voilà, n'est pas là, et je peux le dire parce que justement on cède quand on nous demande les droits numériques. Donc quand il y a un vrai projet.
Des questions, des remarques, il y a beaucoup de traducteurs, d'éditeurs. Sinon, moi j'en ai, mais ça concerne peut-être effectivement la lecture du coup. Parce que tout ce que vous avez dit tous les deux interroge sur l'avenir de la lecture. Comment on va lire en SHS dans 10 ans, selon les pays?
Oui.
Va-t-on acheter des livres ou va-t-on lire sur le net? C'est quand même l'enjeu de l'open access.
On a parlé tout à l'heure justement du cas chinois. Donc moi j'ai beaucoup d'éditeurs chinois qui me disent, mais voilà, on prend en charge les frais de traduction, la fabrication, on prend en charge tout, vous n'avez qu'à trouver en fait les traducteurs et on va le payer. Et bien, les traducteurs n'y est pas, enfin, on ne le trouve pas, parce que autant les Chinois, les étudiants, ils viennent à Paris, viennent en France, ils font leurs études. Autant il y a peu de Français en fait qui font exactement l'inverse, ou s'il y en a, il s'agit bien des chercheurs qui sont très occupés, qui ont les compétences, mais qui ne peuvent pas consacrer 4 ou 5 mois de leur année universitaire pour traduire un ouvrage.
Alors,
donc
là,
il y a un problème
de
formation, voilà.
Oui,
de communication.
De traduire, non, vers le français.
Oui.
Chinois en français, des SHS en fait.
Oui.
Peut-être qu'il faudrait informer, même ici, il y a des gens qui parlent chinois.
C'était par rapport à nos façons de lire, justement. Comme j'ai lu beaucoup dans mon quotidien,
oui.
J'écoute les audio-livres le soir, je trouve ça plus agréable. Et j'ai beaucoup de mal à trouver de la non-fiction de qualité. C'est toujours, parce qu'en anglais, on dit Narcisse en chat. C'est des choses un peu populaires, mais est-ce que quand vous parlez de l'avenir du numérique, est-ce que ça joue un rôle encore
ou... On fait très peu de sessions de droit audio. Et quand on les fait, ça concerne justement les titres dont on parlait. Mm-hmm. Par exemple, moi j'ai en tête juste un exemple, un que sais-je, sur le parfum, qui a été traduit en anglais et qui fait des ventes mais vraiment impressionnantes par Skyhorse en livre audio. Mais c'est vraiment des cas. On a aussi un autre titre qui a été beaucoup repris en livre audio, mais c'est un roman, Cloche-Merle, qui fait partie de notre catalogue, mais justement, voilà, il a été publié depuis Ah non, non, on ne fait plus ça. Donc c'est un titre fiction.
Mais même en français, vous n'avez pas...
Nous, pour la collection, nous, on l'est fait pour la collection que sais-je, on le faisait. Mais les ventes, après, voilà, peut-être je me trompe, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des chiffres significatifs. Sinon, je pense que je n'aurais pas oublié.
Non, mais en ce qui nous concerne, on a plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire des textes. Quand il existe des enregistrements, on publie et surtout qu'on édite, qu'on présente, etc. C'est le cas de la collection biographique. Il faut acheter à l'INA, souvent d'ailleurs très cher, les droits, ça fait partie aussi des données pour éventuellement en diffuser une version électronique. Est-ce qu'on a acquis également les droits électroniques auprès de l'INA, ou seulement les droits de papier? Auprès de l'INA, tout est valorisé, tout se négocie.
C'est un acteur public, mais.
Institut national de l'audiovisuel. On peut souligner quand même, puisque vous évoquez le livre audio, les exceptions qui ont été introduites dans la loi sur le droit d'auteur pour les fichiers qui servent ensuite à alimenter les transcriptions en braille. Là, les choses ont été facilitées, sont rendues même obligatoires à travers le système Platon.
L'exception handicap.
Oui. Voilà, l'exception handicap. Là, pour le coup, le législateur a été attentif à ça, et en tant qu'éditeur public comme privé.
On est obligé. Oui, c'est une obligation d'envoyer les fichiers.
Bien sûr. Vous aviez une question?
Non, je voulais juste vous dire que je suis enseignante à l'ESIC. On a tous les ans un ou deux étudiants francophones avec le chinois. Là, c'est édition spécialisée.
D'accord.
Peut-être qu'il faudrait effectivement un peu plus d'informations sur les traducteurs en sciences humaines de langues autres que l'anglais, puisque effectivement on sait qu'il n'y a pas un marché, donc les gens font autre chose, et que pour un éditeur ça peut être compliqué de trouver un traducteur, surtout s'il doit le faire vite et qu'il peut pas démarcher et faire passer des auditions pendant des heures.
Il y a
ce problème-là.
Ben, nous, en tout cas, au niveau des contrats de cession, on a ajouté depuis quelques années déjà une clause qui en fait dit tout simplement que l'éditeur qui achète les droits doit nous communiquer le CV et l'email, les coordonnées des traducteurs, si les traducteurs est d'accord, bien sûr. On ne fait pas ça pour harceler les gens ni pour faire quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on a créé, enfin on essaye de créer un réseau de traducteurs auquel on envoie nos catalogues au même titre en fait que les éditeurs. Et donc quand on fait les voyages d'études qu'on fait, quand on organise les rencontres dont j'ai parlé tout à l'heure, ces traducteurs sont conviés. Donc ils participent au débat qui n'est pas toujours agréable, parce qu'on parle bien sûr de leur rémunération, de leur statut, du fait que la plupart des traducteurs ne voient pas leur nom ni sur la couverture, parfois nulle part par ailleurs. Donc on ne fait pas ça pour le plaisir de les faire. Mais dans la mesure du possible, quand on peut aider, on aide. Ne serait-ce que juste, parfois moi j'ai des traducteurs qui m'écrivent, ils me demandent juste le fichier Word ou le fichier PDF pour travailler on le fait. Bon, ça commence par des choses plutôt pratiques, demander un email, ça semble anodin, mais puis là on a une base quand même de, je pense, 700 traducteurs. Et les Chinois, justement, les traducteurs chinois occupent une place assez, assez importante dans ce réseau.
Et d'une manière générale, pour la traduction, évidemment, la recherche de traducteurs, le défi est double. Pour à la fois des professionnels de la traduction, les chercheurs ne peuvent pas, même si on connaît bien la langue, ne peuvent pas forcément s'improviser traducteur, et en même temps des traducteurs professionnels qui ne connaissent pas le domaine, le sujet, les concepts, peuvent être aussi à celle qui n'a pas. Donc il y a cette, il y a vraiment ce dialogue très serré. Et on, l'auteur d'origine, l'auteur français, s'il s'agit de ce truc-là, a son rôle à jouer. Finalement, il peut être à même de discuter avec le traducteur.
Quelle est du coup la part de la validation par rapport à un ouvrage qui serait traduit en chinois? L'auteur
est d'accord sur le traduit en chinois. Est-ce qu'il a un mot à dire sur la... Enfin, j'imagine que le chinois, il peut difficilement le lire, mais est-ce que l'auteur valide la traduction au final parce que peut-être il ne parle pas, il ne lit pas le chinois, mais il y a beaucoup de professeurs qui sont invités un peu voilà, partout dans le monde entier. Et donc, il va passer la traduction à un collègue. Bien sûr, bien sûr, des validations. Après, je ne peux pas dire que qu'on fait les mêmes suivis sur toutes les sessions.
Après,
il y a aussi, si l'auteur s'intéresse, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs à qui on envoie des justifs qui ne sont retournés. Déjà, voilà, qui ne s'intéressent pas, parce qu'il faut dire ça aussi. Non, mais... Parce qu'on imagine toujours un auteur qui est super ravi d'être traduit. Il y en a, et c'est heureusement, c'est la plus grande partie. Mais tous les auteurs ne suivent pas les projets de près. Et puis il y a des auteurs qui vont dire à leurs collègues, mon livre a été vendu à une foire. Comme si c'était voilà, la foire du livre de Francfort, comme s'il y avait des bêtes et des animaux. Mais c'est comme ça, voilà.
Il y a parfois aussi l'auteur qui connaît la langue et qui relie la traduction, qui parfois même participe très activement, ne serait-ce que pour passer un certain nombre de barrières, si on évoque la Chine, pour pouvoir arranger certains passages, de façon à ce que ça passe à travers les fourches de la censure. C'est déjà aussi arrivé.
Et puis surtout, il y a beaucoup d'auteurs modestes qui peuvent dire des choses et ils ne les disent jamais. C'est-à-dire ils reçoivent une traduction voilà, qui n'est pas bien faite, l'édition n'est pas très soignée, ils vont dire merci et rien d'autre. Mais c'est par modestie.
On arrive un peu à la fin, mais on a encore 5 minutes, donc si vous avez d'autres remarques. Oui, il y a la question du droit d'auteur qui me taraude un petit peu, puisque c'est quand même un des points qui est un peu remis en cause par l'évolution numérique, un peu dans tous les domaines, hein, pas seulement bien sûr dans le livre. Et Maria, tu as beaucoup insisté là-dessus, on doit respecter le droit d'auteur, etc. Sachant que beaucoup d'universitaires, surtout dans la jeune génération, dans les sciences sociales, est prêt à, pour diffuser sa production, bien sûr à renoncer à une rémunération du texte, mais même peut-être à plus que ça, je veux dire, à éditer collectivement, voilà, puisqu'il y a vraiment l'impératif de publier. Donc,
souvent, ces cas de figure, et tu fais très bien d'en parler, moi, je donne toujours la même réponse. Notre discours doit être cohérent. Ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour votre confrère. Si vous, vous ne voulez pas être payé, si vous, vous ne voulez pas recevoir vos droits d'auteur, votre collègue, un autre collègue veut. Alors, je ne peux pas avoir 3 ou 4 discours différents pour satisfaire tout le monde. Voilà. Excusez-moi, mais voilà, je suis très ferme. Mais parce que, en fait, il y a des auteurs qui vont nous dire, moi, cela ne m'intéresse pas, je fais ça pour la recherche, pour la gloire. Voilà. Mais il y a un modèle économique qui est là. Et donc, il faut que tous les auteurs jouent voilà, avec les mêmes règles. Après, qu'ils peuvent renoncer à ses droits, c'est son droit. Ça, on peut le faire. Mais on ne peut pas généraliser ça.
Surtout quand l'auteur est instrumentalisé par l'éditeur d'accueil.
Et ce qui est quand même paradoxal dans tout ça, c'est que un jour, on nous dira ça. Moi, les droits d'auteur, ça ne m'intéresse pas. Et puis, 2 jours après, il va m'appeler, il va me dire, je n'ai pas reçu l'avance sur l'édition espagnole, sur l'édition portugaise. Donc, voilà. Il faut savoir voir aussi ce qu'on veut. Et c'est son droit, justement, de renoncer à ses droits, mais on ne peut pas imposer ça comme politique à tous les auteurs. C'est mon point de vue.
On fait le même constat.
Mais... On fait le même constat, en effet. Mais c'est vrai que l'auteur qui est envoyé un petit peu comme un poisson pilote par l'éditeur qui souhaite obtenir une traduction gratuitement, sans aucun droit, de toute sorte, ça arrive aussi, on le rencontre assez souvent. Ça fait partie de la négociation de l'auteur. Mais... Il n'est pas forcément solitaire, cet auteur, il est parfois envoyé en mission.
Est-ce qu'il aurait, ce même auteur, signé un contrat d'auteur pour l'édition française à titre ratio? Est-ce qu'il l'aurait fait?
C'est la question.
Alors, peut-être pas au PUF, mais dans plein de presse d'université, bien sûr, il demande d'apporter des sous pour publier des
choses. Bien sûr, mais ce sont les mêmes auteurs, en fait, qui ont signé les contrats d'auteur dont je parle au PUF,
oui.
et d'après lesquels il y a une rémunération prévue. Oui. Qui me demande de céder le droit à titre gracieux par la suite aux éditeurs étrangers. Et c'est là où c'est difficile à suivre.
Il y a des contradictions. Bien. On arrive là. Merci beaucoup de vos interventions qui ont suscité pas mal de questions. Et merci beaucoup pour toute votre participation. Et on se retrouve le 9 février avec une séance consacrée aux questions des politiques des bibliothèques. Voilà, avec Benjamin Guichard, qui est directeur scientifique de la BULAC et qui est aussi chercheur.
Merci.
Merci beaucoup. Pardon. 9 février et 26 janvier. Oui, vous avez peut-être mis votre nom dans le.
Oui, j'ai mis mon nom.
Allez-vous rapporter tout ça?
Avec Hélène aussi, et on aura une deuxième partie. Mais c'est vrai que ça m'intéresse de voir la question de l'évolution des politiques européennes. Ah oui, j'avais apporté ça moi sur les positions, mais peut-être. Hein? S'il y a des gens qui veulent des documents sur les jeux de la
chaîne,
j'ai
déjà donné.
Je pense que le mécanisme de validation. Oui.